R22 tout le monde, antenne cadiste.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur la R22 et l'antenne de cadiste. Je suis Émilie Villet, directrice de cadiste à Paris et nous sommes dans l'espace d'exposition et plus précisément dans l'exposition Not Fully Human, Not Human at All, encore ouverte jusqu'au 11 juillet. Et je suis avec la commissaire de l'exposition, Natacha Petressine Bachelez, et l'un des artistes de l'exposition, Olivier Marbeuf, qui présente ici une série de dessins. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ce soir, Olivier va nous proposer une lecture à plusieurs voix de son texte poétique « Bleu pays ». Et pour faire cette lecture à plusieurs voix, il a invité l'artiste Eden Tinto Collins, qui va très vite nous rejoindre, et que je remercie par avance d'être avec nous. C'est un texte qui est lu en public radiophonique pour la première fois et qui a déjà fait l'objet de traductions dans de multiples langues, dont l'anglais et l'allemand. Et c'est pourquoi nous avons invité Lotte Arndt. Bonsoir Lotte.
Bonsoir.
Théoricienne et curatrice à nous rejoindre parce que Lotte est la traductrice de la version allemande de ce texte. Donc nous allons pouvoir démarrer la séance de ce soir avec une conversation autour du contexte de création du texte et aussi de la présentation du travail d'Olivier dans l'exposition. On passera ensuite à une lecture donc, du texte par Olivier et Eden et on finira avec encore un petit morceau de conversation. Je voudrais préciser que c'est finalement dans nos discussions. Cet événement a été pensé comme une séance de travail aussi, sur un travail in progress, pardon, un texte qui est encore en évolution. Et nous avons une diffusion en parallèle sur l'Instagram de Cadiste en live, de l'interprétation en langue française des signes, de la conversation et de la lecture. C'était important pour nous d'avoir deux canaux de diffusion de cet événement aussi, parce que dans l'exposition à Cadiste, nous accueillons un artiste sourd et que c'est une problématique, la question de l'inclusivité qui est au cœur de l'exposition. Et donc je remercie du coup les deux interprètes, Elodia Motto et Eve Caristan, que vous pouvez voir si vous êtes sur Instagram. Du coup, pour démarrer, je me tourne vers Natacha. Peut-être que tu peux présenter un petit peu l'exposition elle-même dans laquelle on est et le cadre du coup de l'invitation à Olivier, à la fois les dessins et le texte aussi. Je te laisse la parole.
Merci Émilie, bonsoir à vous toutes et tous. Donc comme tu as dit Émilie, nous nous retrouvons au cœur de cette exposition. Qui est un résultat en fait d'un processus de recherche autour de la question de est-ce qu'on peut aujourd'hui encore parler de l'humain? Quand on parle de l'humain, de quel type d'humanité on évoque? Et toute cette réflexion est venue à travers votre invitation donc de la Fondation Cadiste pour parler de l'Europe, en fait, de faire un projet qui parle de l'Europe. Et pourquoi cette question de l'humain et de l'humanité au cœur de l'Europe était important? Premièrement, là, je ne vais pas faire tout le parcours que je fais d'habitude quand je parle de l'exposition qui a pris plusieurs étapes, plusieurs commandes artistiques. Mais surtout, je prendrai cette option ou cette possibilité aujourd'hui, ce soir, de parler surtout de, et je pense que nous ferons un peu tout le monde ici autour de cette table, d'où on parle, quand on parle en tant qu'être vivant. Moi, je parle d'une position de quelqu'un qui vient d'un côté de l'Europe elle-même, qui a vécu des extrêmes violences, qui continue de vivre aussi dans une forte dans une démarche de toujours d'une discrimination plutôt de l'ordre de comme je viens d'un pays qui s'appelle ancienne Yougoslavie aujourd'hui, nous, dans l'ancienne Yougoslavie, nous n'étions jamais assez blancs, comme l'Europe se traite toujours comme ce continent qui est colorblind, qui se veut être colorblind. Donc je voulais vraiment questionner de comment ça se fait que d'où vient cette catégorie de quel est son enracinement historique, comment ça se fait que il y a un tel problème dès qu'on compare ce qui se passe par exemple dans les États-Unis par rapport à questions raciales, par rapport au racisme de différents ordres, pourquoi il y a toujours ce problème en Europe de ce refus en fait, finalement, de comprendre et de, en fait, pas comprendre, mais vraiment faire face et confronter à l'histoire propre de l'Europe, qui est en fait à la base de toute cette discrimination et racialisation que nous connaissons aujourd'hui. C'est ça dont je voulais parler en venant d'une région de ce qu'on appelle l'ancienne Europe de l'Est. Et pour faire ça, je me suis beaucoup appuyée sur plusieurs écrits, des écrits de, évidemment des féministes noires comme Hortense Spillers ou encore Sylvia Winter, qui énormément traitaient en fait cette question de l'humain. Et puis dans une des conversations que nous avions avec Olivier, Olivier disait, et ça a vraiment ancré en moi aussi cette réflexion, mais c'est vers quel humain en fait on peut du coup aller une fois quand on était déshumanisé depuis des siècles, c'est vers quel humain qu'on peut aspirer. Et de l'autre côté, il y avait par exemple aussi l'écriture, on peut évoquer ça, de Fatima El Tayeb, qui est une écrivaine professeure afro-allemande, mais qui enseigne aux États-Unis. Et elle voyait le processus de racialisation en Europe venant plutôt de l'ordre de l'économie, de l'ordre de travailleurs immigrants, par exemple. C'est pour ça que dans l'exposition, nous ouvrons, par exemple, avec plusieurs positions qui traitent cette déshumanisation aussi à l'ordre du travail, qui est vraiment très présent en Europe. Et puis, pour faire cette extension à Olivier, avec qui nous partageons maintenant plusieurs années de connaissances, d'amitié, de collaboration, c'est aussi parce que pour tout ce que Olivier a fait, moi je suis venue en France en 2005 et la première chose qui m'a vraiment le plus marqué et le plus parlé, c'était son travail fait autour de Kiasma, autour de cet espace d'extrême générosité, autoréflexion sur des questions de décolonialité, post-colonialité comme personne encore en France, ou très peu de personnes ont parlé de ces effets-là. Et ensuite, nous partagions beaucoup de débats, beaucoup de discussions au fil de temps. Mais plus récemment, Olivier a commencé à publier, à vraiment rendre public en fait son travail aussi d'écriture poétique, qui est à la fois, je dirais, création théorique, création littéraire. C'est vraiment une sorte de hybride, et je pense que Olivier, tu vas nous parler aussi de ça tout à l'heure. Une sorte de dénonciation politique qui essaye se situer dans le temps présent où nous sommes, dans l'espace présent de la France contemporaine hexagonale, avec ces régions surtout des Outre-mer sur lesquelles Olivier porte un regard et un travail conséquent et cohérent, et surtout de parler en fait de ces temporalités que j'ai essayé aussi d'évoquer dans l'exposition, que à partir du moment où on essaye de parler de la contemporanité, nous ne pouvons plus être aveugles au passé, européen très sanglant. Je pense qu'à travers le poème, qui est en même temps un poème futuriste, je trouve qu'il y a cette va-et-vient en fait en temporalité qui me semble vraiment parler d'aujourd'hui où on est ici à Paris, en France, face aux sujets et problèmes de déshumanisation qui continuent d'être là. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette invitation à Olivier. C'est un peu longue introduction. Je laisserai peut-être Olivier à nous dire. Donc, dans l'exposition, il y a aussi installation. Donc, c'est à la fois ça existe comme le texte et comme installation de dessin, des aquarelles. Pour vous dire tout, on est tous les deux habillés en bleu. Et le poème s'appelle Bleu pays. Donc, Olivier, peux-tu nous dire d'abord peut-être du temps long aussi que tu as pris pour écrire ce poème?
Merci Natacha, merci pour Émilie, et puis je suis content aussi d'être autour de la table avec l'hôte, parce qu'il se trouve que l'opportunité qu'on a de se retrouver ici, c'est aussi de poursuivre des conversations dont on sait, nous, qu'elles durent depuis assez longtemps. Donc il y a ce temps long-là déjà, en fait, c'est pas toujours le cas, en fait, dans les projets. Là, on peut se retrouver après des décennies à échanger dans différents contextes. Moi, le contexte est différent puisque l'espace Chiasma a fermé. Et donc, il y a plusieurs manières de négocier la fermeture d'un lieu. On pourrait vouloir faire un autre lieu. Alors moi, j'ai fait un lieu à un moment de ma vie où ça me convenait de faire ça et je crois que ça correspondait à un besoin. Il y a toujours besoin de lieux à Paris, je ne pourrais pas refaire la même chose à ce moment-là. Et j'ai décidé de m'intéresser plutôt à ce que je n'avais pas fait pour faire le lieu, parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose et qu'on s'investit avec intensité dans ce qu'on fait, il y a aussi des choses qu'on ne fait pas, alors, y compris auprès de ses proches, auprès de ses amis. Il y a plein de choses qu'on se dit, voilà, moi, je n'ai pas fait ça pendant tant de temps. Et souvent, les gens voient ce qu'on a fait, mais nous, on sait ce qu'on n'a pas fait aussi. Et l'une des choses que je n'avais pas faites, peut-être, en fait, c'est dans certaines formes aller jusqu'au bout de ce que ça veut dire être témoin d'une époque. Donc, j'avais créé les conditions pour qu'on entende des voix, les conditions pour qu'on se retrouve, pour qu'on travaille, pour qu'on invente. Mais à la fois, avec la fermeture de ce lieu-là, j'avais aussi accumulé de l'expérience de témoin. Et ça, c'est important parce que je pense que c'est aussi une histoire un peu particulière du sujet anciennement colonisé, d'être finalement le témoin en fait, de l'histoire européenne qu'on n'interroge jamais. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire de l'Europe en étant descendant, à la fois afro-descendant, mais aussi pour ma famille, descendant d'esclaves, et finalement sur un segment assez court, puisque mon arrière-grand-père est né esclave, ce qui est quand même pas non plus très loin. Donc voilà, c'est aussi, est-ce que ce témoignage-là, il peut exister? Et donc là, au début, le travail d'écriture peut-être venait d'une espèce de manière de reconsidérer les choses que j'avais faites, vécues, vues, partagées, à travers une perspective différente que je n'avais pas eu le temps d'agir. Donc c'est comme si on refait, et je crois qu'on est tous en train de refaire sans cesse, essayer de mieux faire, essayer de refaire. Donc à travers l'écriture, je n'ai pas fait une chose différente, mais je l'ai refaite avec une autre perspective, d'autres outils aussi, qui posent, on en a parlé aussi avec l'auteur, je crois qu'on en parlera plus tard, des questions de signature, etc., qui étaient paradoxalement pas tellement mon centre d'intérêt, parce que j'ai toujours écrit, j'ai toujours dessiné, en fait, comme tu dis, si on rend visible quelque chose que tu as toujours fait, donc pour toi, il n'y a pas un grand changement, mais on voit bien qu'il y a évidemment des changements, parce que les catégories constitutives de notre champ ne sont pas les mêmes, en fait. Bon. Mais pour revenir à cette question-là, en fait, de déshumanisation, je pense qu'il y avait cette question-là, en tout cas, de dire est-ce qu'on peut raconter une histoire à partir d'une certaine sensibilité, est-ce que cette sensibilité-là, elle peut vraiment se travailler dans des singularités, mais pas à l'extérieur d'une question. J'avais pas envie de venir avec une critique en tant qu'homme racisé, en mettant l'Europe à l'extérieur de moi, je suis un Européen, quoi. Et donc, il y a une chose douloureuse là-dedans. Parce que c'est une forme de coupure aussi de ce que c'est qu'être un Caribéen. Et moi, je fais partie de ces diasporas, et les diasporas, elles parlent d'une manière différente. Donc, je voulais aussi montrer qu'on était à l'intérieur et à l'extérieur, dans un mouvement où on est très concerné en tant que matière première de l'histoire européenne, et puis après en tant que sujet. Donc vraiment l'effort de dire est-ce qu'on peut être dans un dispositif de pensée, de témoignage et de critique en n'essayant pas de s'installer dans une position qui donnerait le confort de celui qui peut regarder de l'extérieur. Moi, je ne peux pas regarder l'Europe de l'extérieur. L'Europe, c'est mon continent, quoi. Et donc, je peux qu'exprimer peut-être parfois la douleur, même que ce soit le cas, mais je ne peux pas faire semblant que je peux m'extraire de ça. Et je trouvais ça intéressant, y compris à une époque où on a tendance à reconstruire des positions identitaires, peut-être un peu essentialisées et purifiées, qui permettraient de parler des choses sans qu'elles nous concernent dans leur paradoxe. Moi, je suis forcé d'être dans ce paradoxe-là parce que j'ai à la fois des origines aussi d'Europe de l'Est et des origines des Antilles. Et donc, ce mélange-là, je dois le négocier dans ma manière de parler, de penser, de voir les choses, quoi. Mais à la fois, et dans l'autre geste, qui correspond à la fois à des gestes curatoriaux que je peux faire, à des collectifs auxquels je participe, à tout un ensemble de multiplicités, il y a cette nécessité de recoudre, renouer. Alors moi, j'appelle ça aussi le geste de reprise, comme on refait, mais à la fois en reprise, de renouer en fait des histoires possibles, étant entendu que moi, je viens d'une histoire qui est extrêmement fragmentée et que je n'avais pas envie dans un geste héroïque, de lui donner une continuité qu'elle n'a pas. C'est une histoire fragmentée et assumée comme telle. Mais recoudre une histoire fragmentée, c'est un geste volontaire et spéculatif. C'est fabriquer un futur possible à travers des choses qui ont été éclatées. Et l'identité diasporique, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est un morceau de quelque chose et on peut avoir envie de se recoudre, pas forcément avec la géographie la plus évidente qu'on croit, avec des géographies aussi spéculatives, mais en tout cas actée de ce moment-là. Donc le travail de texte et Bleu Pays et ces textes-là, c'est un texte qui, paradoxalement, essaie de trouver un espace déjà, de retrouver un espace, de fabriquer un espace même avec l'écriture et de retisser une possibilité en étant hyper conscient de la difficulté, et je pense que le texte essaye d'exprimer aussi cette difficulté à faire ce geste et d'espace et de reprise, le faire sentir dans la matière du texte. Et donc enfin, avec Natacha, quand on a parlé de ce projet, qui est aussi un travail qui rejoint mon travail de dessin, un travail des aquarelles, qui sont comme des espèces d'improvisation musicale sur le texte, faisant le texte, je dessine, et on fabrique aussi des espèces de visions des potentialités du texte qui sont exposées ici. Mais l'idée que le texte ne soit pas directement associé à l'installation d'images permet aussi de parler de ces effets de discontinuité qui, dans mon travail, ou dans le projet que je viens de faire aussi avec Natacha à Cité des Arts, qui s'appelle Depuis la nuit, qui est un projet curatorial, où pareil, avec les artistes caribéens avec qui j'étais amené à travailler, j'ai poussé à travailler de manière assez discontinue, c'est-à-dire à séparer le son de l'image, à faire des choses qui témoignent d'une impossibilité de l'illusion de continuité et une existence éclatée, en fait, des langages. Donc, juste pour finir là-dessus, pour dire Bleu Pays, du coup, moi, la proposition que j'ai faite à Natacha dans le cadre de son projet, c'est d'essayer de dire, alors, quelle pourrait être la positionnalité caraïbe pour raconter l'Europe ? Étant entendu que l'une des particularités de l'histoire de la Caraïbe française est évidemment la dépossession et le fait que la possibilité de parler a été régulièrement capturée, et qu'on vit dans le champ de l'art cette menace permanente d'être parlé par, qu'on parle à ta place, d'être raconté par d'autres, et que à plusieurs reprises, quand j'en ai parlé avec des amis, récemment encore avec Françoise Vergès, on se disait, mais on ne peut pas opposer à ça de la propriété. C'est pas parce que tu es dépossédé que tu dois, toi, te défendre avec un outil propriétaire. Donc il y a une espèce d'impasse dans laquelle, qui est très douloureuse, de dire je ne veux pas qu'on me vole, mais je ne veux pas non plus devenir propriétaire d'une identité, d'une histoire. Donc que faire ? Et donc la question de la recherche d'une positionnalité très particulière pour la Caraïbe, qui était de raconter d'une manière particulière ce que peut vouloir dire être caribéen. Et pour moi, c'est une identité qui est celle du retour depuis la mort. Et je pense que ce n'est pas souvent comme ça qu'on présente la Caraïbe, mais en fait, dans le geste de l'esclavage, il y a un aller vers la néantisation, c'est une mort, mais même une disparition en tant qu'humain, et que le peuple caribéen est un peuple qui revient de la mort, et donc qui propose à l'humanité une vie après la mort, qui est ce moment qu'on vit aujourd'hui. Et donc, je me suis interrogé sur la positionnalité possible de dire est-ce qu'on peut être des êtres constitués à partir d'un moment de mort qui est là, qui est, à mon avis, européen, même s'il est très loin en distance, un moment de mort européen dans la mer Caraïbe, dans l'océan Atlantique. Et ce moment de mort européen, est-ce qu'on ne peut pas proposer aux autres Européens la possibilité d'un retour depuis cette mort-là, en la considérant déjà ? Et qui serait une positionnalité qui, pour moi, rejoint le geste d'abolition, c'est-à-dire il faut avoir le courage de se mettre aussi près de ce moment de mort, parce qu'il ne permet aucune extraction. Quand on va mettre son corps à cet endroit-là, on prend le risque de mort. Et ça rejoint toutes les théories sur l'abolition, de dire c'est en partageant le risque et la présence de l'endroit le plus dangereux qu'on peut créer des alliances.
Merci Olivier. Quand je fais parfois des visites de l'exposition, ça me rappelle toujours le Bleu Pays, peut-être le titre, si on revient au titre lui-même. C'est évidemment, comme tu dis, c'est d'abord cet espace de l'océan qui a vu tellement de morts et tellement de passages. Mais aussi ce Bleu Pays, si on le, c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui dans la mer Méditerranée. Donc je fais toujours cet rapprochement, disons, en disant que ce poème que tu as écrit est une sorte de réémergence d'un archive qui existe plutôt dans le DNA des personnes descendantes des esclaves ou afrodescendantes, mais qui ont vécu ce déplacement, qui ont vécu un processus que Sylvia Winter, par exemple, elle appelle ça c'est très beau, c'est la réhumanisation. Comment, après, face à la mort que tu décris, comment dans cette mort qui est l'esclavagisme, qui est déshumanisation d'un être vivant, comment tu peux trouver dans quel geste, dans quelles actions, comment tu survis, comment tu te réhumanises. Et je trouve que tu as dans ce poème aussi presque un hommage aussi à cette force vitale en fait qui a été cette résistance de comment imaginer en fait la vie après la mort. Et du coup voilà, c'est aussi pour ça que je parle de la mer Méditerranée, même si le sujet n'est pas exactement celui-là, je trouve qu'il est assez ouvert dans le poème pour faire possible alliance. Et à la fin, je finis toujours aussi, je voulais aussi savoir, parce que tu parles de ce retour depuis la mort, et on est en France, face aussi aux violences policières, faites surtout aux personnes racisées. Pour moi, Bleu Pays, c'est aussi la France hexagonale. Quand je traduis bleu comme quelque chose qui est triste, en anglais, par exemple, donc je vois toujours ces trois zones géographiques, finalement, qui m'évoquent ça. Mais c'était aussi pour plus, peut-être, aller plus juste pour parler de titres, mais aussi de la structure de poème. Tu as parlé de discontinuité. Le texte lui-même, il est très graphique, il est très visuel. Peut-être tu veux introduire aussi sa structure.
Oui, je vais dire quelques points très vite parce qu'après on va aller doucement aussi vers la question de la langue en transition et de la traduction aussi en commençant à parler avec l'auteur. Bon, on a aussi parlé avec plusieurs d'entre vous de l'idée que pour moi le texte il est un peu c'est comme quand on parle de développer une photo lorsqu'on a un négatif, quoi. Quand le texte va être dit de différentes manières ou lu de différentes manières ou traduit, il est développé dans ses potentialités vers d'autres langues, vers d'autres territoires. Comme tu disais, on peut l'interpréter d'un point de vue méditerranéen, évidemment. Pour moi, ce qui est important, le point de départ, c'est de prendre la mer comme un territoire et de sortir de l'épistémologie qui mettrait l'eau entre les territoires. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et donc, Bleu Pays, déjà, ça dit ça. Ça dit en fait qu'il y a ce grand pays bleu qui est un bout du pays. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs résonances parce qu'il faut savoir que la couleur bleue que j'utilise aussi n'existait pas en Europe avant la période coloniale. En fait, c'est le cobalt qui est donc vraiment un produit qui est amené en Europe et qui a le paradoxe que ce produit colonial devient aussi ce qu'on appelait le bleu roi à un moment donné. Du coup, on voit que là passe dans la langue des manières de nommer les bleus, donc bleu outre-mer, qui va donc raconter d'où il vient, bleu cobalt, bleu. Et dans cette variation-là, moi j'ai commencé à entendre des différentes manières de raconter la même histoire. Dire bleu roi pour ce bleu-là, on pourrait dire bleu cobalt, bleu outre-mer, on peut dire beaucoup de bleu atlantique, on peut travailler là-dessus. Et d'ailleurs, quand on a travaillé avec Salma, qui ici s'occupe de l'installation des expositions, pour discuter du bleu qu'on avait, elle m'envoie des référentiels et j'ai encore vu d'autres noms de bleus qui m'ont intéressé. Et c'est vrai que, par exemple, dans la traduction, il y a une difficulté. C'est parce qu'en fait, en français, on peut inverser ou pas justement le nom et l'adjectif. Mais quand on dirait « blue land » en anglais, c'est déjà en fait le sens d'un pays qui est bleu, tandis qu'en français, dire « bleu pays », ça veut dire qu'en fait, « pays », c'est la qualité du bleu. Et donc cette nuance-là, dire « bleu pays », ça donne quelque chose qui est déjà dans la traduction un problème. Bon, l'auteur va nous parler d'autres problèmes que pose la traduction, mais je dirais problème, en tout cas question ou nécessité de reconstruire des positionnalités, c'est-à-dire qu'en fait, la manière dont c'est écrit, et ça c'est vraiment à dessein, c'est d'abord écrit, comme tu le dis, de manière graphique, fragmentée, à plusieurs voix et pour plusieurs voix. Donc c'est déjà quelque chose qui est une espèce d'impossibilité de position parce que c'est parlé par plusieurs personnes. Et enfin, ça pose des questions de traduction parce que c'est travaillé, comme je dirais, dans le français. Et moi, ça, c'est une particularité de mon travail. Je parle plusieurs langues, mais je n'écris qu'en français. Parce que c'est la langue dans laquelle je me bagarre, quoi. Donc, quand on bouge un mot dans cette langue-là, qui est une langue en plus extrêmement chargée, qui n'est pas une langue légère, il y avait une bagarre. Et effectivement, quand après on passe dans d'autres langues, ben, c'est presque la personne qui va traduire qui doit se mettre dans sa propre bagarre avec la langue. Ça ne peut pas être la mienne. Pas si l'auteur, tu veux dire quelque chose.
Bah, en tout cas, c'est la plus magnifique introduction que je puisse m'imaginer. Alors, en effet, d'une bagarre à l'autre, moi, ce soir, j'aimerais bien parler depuis l'endroit de la traduction et me situer pas tant à l'endroit de la langue que à l'endroit du transfert culturel. Alors, de se poser la question de ce que ça veut dire que d'amener un texte d'un contexte à un autre et ce que fabrique ce changement de bagarre tout en étant une mise en lien d'une bagarre avec une autre. Et peut-être pour l'ancrer quelque part, je pense que c'est important en effet de revenir au début de ces échanges qui se sont noués autour de cet espace chiasma, tellement important pour autant de monde entre nous et qui ont réuni autant de voix, autant de corps, autant de pérégrinations différentes dans ce qui a pu être une communauté par moment. Et je pense que si on se retrouve des années après encore à parler, à échanger, c'est beaucoup en lien avec ce que ce lieu a pu fabriquer à ce moment-là et qui résonne beaucoup dans ce poème et dans ces échanges qui sont là. Je vais tenter un tout petit peu de contextualisation comme point de départ. Bleu pays est un texte tonnerre, écrit et proposé dans un moment de bascule en France, celui où les institutions, après des années d'étanchéité envers les artistes et militantes racisées, découvrent les questions décoloniales, sans pour autant, pour beaucoup, changer leur mode de fonctionnement. Plutôt qu'une pratique transformatrice, cette mainstreamisation aborde le décolonial comme sujet, donc comme un thème qu'on peut programmer, déprogrammer, en alternance avec d'autres. Le poème pose en creux ou ouvertement la question des conditions d'apparition que produit cette captation institutionnelle et interroge les échappatoires possibles. Traduire Bleu Pays à ce moment-là en tant qu'autrice blanche, dans la foulée des discussions autour des traductrices et traducteurs de Amanda Gorman, pose nécessairement la question du lieu d'énonciation, de l'endroit possible depuis lequel une telle traduction pourrait se nouer. Comment ne pas substituer ma voix à la voix du texte et par cela devenir moi-même captatrice? J'ai envie de répondre en me situant dans le processus de traduction même, qui, je pense, peut aider à faire émerger un lieu d'énonciation, dans la mesure où on ne la comprend pas comme un mouvement circonscrit d'une langue préexistante à une autre, d'une entité close face à une autre, mais comme une relation entretenue depuis un écart constitutif qui découle de l'impossibilité d'effacer la différence. Cette idée me semble fondamentale dans une approche de la traduction culturelle comme un déplacement, une récontextualisation. Ça veut dire la négociation permanente des dominations et le refus d'effacer les différences par une prétention du même, qui ne pourrait avoir lieu. Et j'aimerais bien citer pour cela ce texte de Encarnación Gutiérrez Rodríguez de 2006, qui écrit que la traduction serait l'impossibilité de créer une image spéculaire de l'original. Une impossibilité, mais aussi un refus de mimétisme, du désir de se substituer, de substituer une voix par une autre, demande de composer avec des multiplicités irréductibles et partiellement opaques les uns aux autres. C'est peut-être depuis ces écarts, depuis la mise en relation et les polysémies imprévisibles, parfois conflictuelles, qui font émerger, que peuvent surgir les alliances transversales, dont vous avez déjà parlé par rapport au poème, mais surtout par rapport à Chiasma. C'est précisément parce que la traduction n'est pas fusion, qu'elle comporte nécessairement une dimension irrésolue, qu'elle a tant été investie pour penser contre toute idée d'espace culturel clos, de pureté, d'identité. Elle est, comme le dit Rada Ivekovic, qui a vu les politiques de purification des langues et leur délimitation ethno-nationaliste, qui a accompagné les guerres des Balkans, un, je cite, « mouvement qui implique une transformation incessante de la signification ». Le pays est un pays qui traverse des espaces, qui s'attarde à des lieux, mais qui va surtout relier des conditions liées à une histoire matrice de la modernité, à des vécus dispersés et reconnectés qui en résultent. Il interroge la possibilité de l'avènement d'un lieu et l'affirme dans une expérience partagée, pas dans un lieu physique. C'est peut-être dans cela que traduire peut participer à faire lieu en contribuant à la porosité entre des contextes de discussion, à la façon comment les écarts et les décalages peuvent s'informer. En 2009, là je parle un peu plus du contexte de ce que ça veut dire que de penser la traduction en allemand, le livre « Mémoire multidirectionnelle, repenser l'Holocauste à l'aune de la décolonisation » de Michael Rothberg est traduit en français, c'est écrit en 2009 et traduit en 2018. Il ne fait pas grand bruit en France, au moment de sa traduction. Au contraire, 2 ans après, sa traduction en allemand suscite des questions majeures autour des connexions entre extermination nationale socialiste et oppression coloniale. En traduisant Bleu Pays, je me suis interrogée sur ces résonances prospectives du poème, dans un contexte où l'association entre les mots « cendre » et « mort » dans une phrase rappelant un poème de Paul Celan évoque une machine exterminatrice qui n'est pas nécessairement bleue. Comment sera-t-elle entendue dans une langue nouvellement partagée par 1 million de personnes venues de Syrie ? En traduisant Bleu Pays, je me suis interrogée si une lumière rose renverra peut-être plus vers le quartier de la gare d'une ville comme Francfort que vers une exposition dans les quartiers aisés de Paris et permettra ainsi des branchements inattendus. En traduisant Bleu Pays, je me suis interrogée si Théo et Adama sont peut-être reçus comme des prénoms comme d'autres, sans être immédiatement porteurs d'une histoire, en tout cas pas celle des violences policières, de la ségrégation des territoires, ou encore lus par d'autres comme un code d'une connexion secrète à un territoire voisin ou éloigné où, on sait, existe une condition partagée. Et c'est depuis cet endroit-là que j'ai essayé de trouver une langue pour que ce poème puisse exister en allemand.
Merci beaucoup, l'auteur. Bon, c'est déjà, ça ouvre à beaucoup de choses, mais je trouve très intéressant cette remarque sur Théo et Adama. En 2018, dans l'année 2018, l'année où on a fermé Chiasma, et où moi je savais que Chiasma allait fermer, j'ai écrit un ensemble de petits textes qui, pour des gens, n'étaient pas très signifiants, mais pour moi, étaient des espèces de préparation à ce que j'allais faire, et notamment un d'eux qui s'appelle « Parler avec des mots à soi », et qui était un peu mon obsession théorique, en fait, parce que non seulement je vais parler en français, mais je viens aussi d'un milieu populaire, de quartier populaire, périphérique, et je me demandais si nos expériences de personnes issues de ces quartiers populaires, qui rajoutent pour moi un peu de complexité sur la question racisée, parce que moi je ne suis pas seulement un racisé, je suis un racisé qui vient des milieux populaires, ce qui pour moi fait une différence très importante dans la manière de parler notamment, de parler des choses. Et donc dans la relation qu'on a avec les expériences. Et effectivement, je crois que dans Bleu Pays, je peux écrire Théo et Adama en mettant que les prénoms, parce que je sais en fait que c'est un endroit impraticable pour quelqu'un qui ne vient pas de ces endroits-là, parce qu'on ne te laisse pas appeler les gens par leurs prénoms seulement si tu ne viens pas de ces endroits-là. Donc c'était aussi des espèces d'indicateurs contre les captures. On refuse systématiquement de dire, il faut dire le nom de famille si tu appelles quelqu'un, sauf si tu es dans cette position d'une certaine proximité avec la question. Et donc, effectivement, il y a parler avec des mots à soi, c'est aller sur un terrain, et Natacha en a parlé, qui utilise le poétique, mais aussi une tentative de geste théorique, avec des mots qui, par contre, ne sont pas utilisés de cette manière-là dans la théorie, et essayer de parler avec des mots à soi en croyant à la fois à l'importance de la théorie, à l'importance de l'expérience, donc en croyant finalement à toutes ces choses-là, mais en essayant quand même de croire qu'on peut les faire d'une manière qui est située. Mais d'une certaine mesure, en fait, l'idée de situer, comme c'est devenu en fait une espèce de question presque conceptuelle de l'art et de la critique, le situer pas en disant spécifiquement je situe, mais en le faisant sentir que c'est situé. Donc cette espèce de délicat déplacement en disant j'ai pas dire je parle de manière située, mais tu vas sentir qu'à un moment donné, et quand tu le traduis ou quand tu lis d'une autre perspective, tout le monde ne peut pas dire ça. Et ce « tout le monde ne peut pas dire ça » m'intéresse parce que ça veut dire qu'il y a quand même des manières de, il reste encore des manières de dire qui ne sont pas que honteuses, parce que moi je viens quand même d'un contexte où on a des manières de dire honteuses. Il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas oublier en fait que l'éducation est d'anciens colonisés et de milieux populaires est complètement basée sur un mimétisme de classe et de race. Il faut, mon père me disait quand j'étais enfant, mon fils, il faut être plus français que les Français. Moi, je suis français une fois, comme je dis. Je ne suis pas français-français. Je suis français une fois. Donc, il faut être plus français que les Français. Donc, les autres, quoi, tu vois, les fameux autres. Sans s'en rendre compte, lui, il crée des catégories de Français dans sa propre famille, en disant ce qu'on appelle chez nous aux Antilles la supranationalité. Il faut être plus français qu'un Français. Je ne sais pas comment on fait, hein, au demeurant, mais lui, il avait une idée peut-être plus claire que moi. Moi, je n'ai aucune idée de comment on devient plus français qu'un Français. Mais ça ne me préoccupe pas tant que ça. Cependant, ça donne l'impression qu'on est condamné à des formes mimétiques pour parvenir à quelque chose. Donc l'émancipation ne peut exister que dans rejoindre une humanité existante. Et pour rejoindre la proposition de l'exposition ici, moi j'avais envie de considérer qu'on pouvait aller vers une humanité qui n'était pas forcément une humanité qui existe déjà. Ce que j'appelle l'émancipation, c'est-à-dire aller vers quelque chose qu'on sentait. Et je crois que le poème essaye de parler aussi du sentir comme une qualité qui, pour moi, est inscrite quand même dans certaines histoires. Fred Moten dit « Nous n'avons fait qu'anticiper parce que nos vies étaient en danger. » Et je pense que la capacité à sentir les choses qui viennent dans des moments de danger viennent aussi, est plus développée dans des gens qui ont des modes de vie où il y a du danger, de voir venir. Et je voulais essayer que le poème ait ce côté visionnaire sans projection, j'ai toujours. Parce que le visionnaire des avant-gardes, c'est projeté, mais en tant que, voilà, dans une posture décoloniale, on ne peut pas être dans la projection. On doit toujours être, comme je dis, peau à peau avec ce dont on parle. C'est-à-dire qu'on veut aller plus loin, mais on reste toujours de loin en loin en contact. Il n'y a pas l'idée qu'une chose n'est pas là, et comme le poème le dit, derrière tout ça, il y a un lieu. C'est-à-dire qu'on sent une possibilité. Et je sais que le poème peut paraître pessimiste, mais en le finissant, j'avais l'impression que c'est plutôt faire l'épreuve de ce qu'on veut dire, jusqu'à arriver à quelque chose qui, à défaut d'être optimiste, n'est pas une vision plutôt positive de ce qui est possible si on fait l'épreuve de cette difficulté vraiment.
Bah, qui est presque une manière de la fin, c'est presque une manière de reformuler les damnés de la terre, non ? Parce que de dire que c'est dans le grondement des ventres que réside l'émergence possible d'un lieu, c'est quand même justement une formulation qui n'a pas les frontières comme repère, mais qui a une condition comme repère qui appelle à son dépassement et qui l'appelle dans une perspective qui transnationale, qui est qui se greffe à d'autres lieux, qui est en soi, ou ce bleu, ne se réduit pas à l'identité nationale, mais juste alors qu'il a déborde en plein endroit.
Donc là, on va. Bah, je vous remercie et je vais me auto-corriger parce que d'abord j'ai parlé du futurisme. Alors il faut absolument pas dire ça. C'est plutôt spéculation que le poème, disons, prévoit une sorte de comme tu dis, lieu d'une possible existence. Et aussi peut-être pour finir et pour revenir aussi à ce que l'autre a dit et toi aussi par rapport à comment imaginer qu'est-ce que la traduction elle-même aussi, où elle mène en fait, où elle peut porter quelque chose pour d'autres espaces qui ne sont pas les espaces géographiquement parlant les mêmes, mais sont les espaces de même vécu. Et c'est là, je pense, que le travail de traduction est vraiment toujours ce processus de mise à jour, finalement. Et je pense que c'était pour Olivier très important aussi d'être associé à... Tu as mentionné une fois que tu aimerais bien... voir évidemment les poèmes dans d'autres langues, mais pour l'instant dans les langues que tu peux aussi parler. Et là, tu veux finir?
Juste pour la transition, parce qu'on va faire un petit break de quelques minutes pour passer à la lecture. Oui, je voulais dire aussi que on a vécu dans une forme d'universalisme, et je trouve que la France, voilà, pour resituer où on est, l'a fait plus que d'autres. Et a plus de mal que d'autres à le lâcher, cet universalisme, il faut quand même le dire. Je le dis parce que c'est un peu une surprise quand même, mais c'est une mauvaise surprise. Parce qu'avec ce qui se passait, on se disait que maintenant, on est temps de basculer vers autre chose. Le poème réagit aussi au fait que la réaction conservatrice en France à Black Lives Matter, elle n'est pas inédite, mais elle est quand même particulièrement forte, quoi. Et moi, j'en étais très déçu, je dois dire, parce que je n'imaginais pas que tout allait changer, mais je n'imaginais pas, en fait, que la seule réponse qu'on nous apporterait, c'est une contre-attaque conservatrice hyper violente et un refus, un déni, replongeant les Français au moment où ils peuvent comprendre quelque chose dans des stratégies d'ignorance. Ça m'a choqué, parce que je trouvais que le moment était venu de pouvoir avancer, et là, il y a un refus de ce moment-là. Et Bleu Pays propose une chose qui est donc une force de contre-universalisme. On nous a appris le monde avec l'Europe au centre. Et comme tu dis, Natacha, pourquoi pas parler d'une perspective caraïbéenne comme on parlerait pour le monde, quoi. C'est-à-dire que c'est pas en fait à la place d'eux. Ça veut dire que quelqu'un peut resituer cette perspective dans ses propres enjeux. Mais en prenant justement un territoire de périphérie comme espèce de point névralgique pouvant... Eh ben, du coup, ça déplace, ça autorise en quelque sorte la possibilité de penser aussi à partir de différents endroits, puisqu'il ne s'agit pas de faire autorité par rapport à cette histoire-là en particulier, mais faire possibilité. Moi, je raconte à partir de là, parce que je peux parler à partir de là, mais je t'invite à te mettre au travail dans ce que tu peux raconter à partir de l'endroit où tu es. Et moi, c'est comme ça que je le voyais aussi, c'est-à-dire que la positionnalité, pour rejoindre ce qu'on s'est dit au début, ne peut pas être pour moi une stratégie de propriété. Et c'est aussi contre ça, paradoxalement, que le texte s'écrit, sur les risques de... pour contrer l'appropriation culturelle, de créer des nouvelles propriétés noires ou que sais-je, qui me semble être la pire chose qu'on peut faire à l'histoire. Parce que pour moi, en fait, on revient de la mort vers le vivant, mais on va vers le vivant aussi parce qu'on revient de la propriété, en fait. Et la mort et la propriété, c'est la même chose, en fait. Donc ce mouvement vers le vivant, c'est un mouvement vers les communs et un mouvement loin de la mort. Ça, c'est pour moi très important.
Et du coup... Juste pour finir, aussi, ce qui est important, c'est que le poème, il est issu sous Creative Commons. Il ne faut pas oublier ça, en fait, que tu ouvres aussi une autre possibilité d'existence au poème qui n'est pas limitée à propriété d'auteur, en vrai parlant. Voilà. Et là, on va passer à la performance du texte faite par Olivier Marbeuf et Aidan Tinto Collins.
Où commence? Où commencer?
C'est la question. C'est la vaine question. C'est la veine bleue qui vibre sous la surface de la peau noire. Qui parle ? Depuis quel pays perdu et sous-marin, océan, me rendras-tu l'os et l'œil, la bouche et le bruit ?
Performance. Il répète la même chose en modulant le ton et la hauteur de la voix sur un fond bleu outre-mer avec des pierres précieuses dans la bouche. Un ananas en équilibre sur la tête. Souris, mon trésor, c'est une performance artistique. C'est drôle, c'est cool. Une lumière mauve et des projections de coquillages, Caraïbes merdiques et bricolés pour les yeux amoureux de l'Occident. Pour payer le loyer d'une chambre miteuse dans une capitale d'Europe, il consent. Et se regarder sur Instagram et regarder sa vie qui est une story brève, vide, éphémère, il consent. Une vie dans la prison d'un œil qui n'est pas le sien, il consent. Et dire « ce que je veux, c'est jouir » et trouver ça beau et trouver ça malin. Et un jour, il trouvera que tout est vieux, déjà.
Ce n'est pas la veine, non, la veine question. Ce n'est pas la coquetterie non plus. Où commencer ? Où dans l'espace planter ses yeux ? Où dans le temps respirer de l'air frais ? Quel air ? Où creuser une place à la surface glacée de l'océan ? Une femme jetée par-dessus bord, du moins c'est ce qu'on croit reconnaître. Malgré l'absence de visage, jeté par-dessus bord, il y a longtemps, très longtemps, remonte, exhibe sa poitrine, couverte de vers et de mollusques, la bouche ouverte vers le ciel. Barbe de mousse, une île vivante, fossile et végétale, elle a transpercé le bleu, abysse sombre de la mort. La voilà plus vivante, au milieu des restes d'un bateau qui flotte. Dans l'œil des requins, une île d'éparle, purulente, dans un fouillis de lichen, dans la ronde des roches gluantes, elle d'éparle.
Journal du Nouveau Monde. Le paysage est désolant, rien des beautés tropicales qu'on nous avait promises. La main d'une princesse est plantée dans la vase et fait un signe d'accueil obscène. Des yeux de plusieurs couleurs sont incrustés dans les fossiles, trésor naturel d'une délicieuse laideur. Aucun mot ne peut nommer ce spectacle dégoûtant qui rampe à la surface assombrie de la mer. Monstre glauque et bleu, au milieu de ce fatras, une larve gémit et se tord, dard géant qui sert de pilori à tous les Jésus passés par là. Nous avons oublié le jour et la nuit, éclairés que nous sommes par les éruptions incessantes de cette île que nulle carte ne signale. Partout à sa surface, les bouches s'ouvrent en hurlant, des cristaux de sucre jaillissent de ces gouffres, mines terrifiantes où personne n'oserait fourrer la main. Une pensée m'est venue ce matin, le seul trésor est la mort, qui ici ne cesse d'arriver, ou plutôt de revenir, de la plus belle des manières, depuis ce que nous pensions être la vie. La tristesse nous a gagnés, nous avons appelé cette funeste rencontre mélancolie. Mais aussitôt l'île a recraché ce nom, avec une main qui tenait les restes d'un drapeau, dévoré jusqu'à l'os par son sable noir et bleu acide, bleu poulpe, bleu qui trouble la surface d'une moule, bleu reflet sur l'œil d'un coquillage. Il n'y a plus de temps. L'air est jauni par les projections de soufre de l'île qui meurt et revit. Nous ne savons plus où aller. Ce que nous voyons chaque jour nous ravit et nous possède. Certains mangent des fruits ramassés dans sa mangrove pour ne pas mourir de faim. D'autres boivent de son eau blanchie au chlordécone. Nous sommes terriblement agités et fiévreux. Hier, nous avons dansé pendant plus de 10 heures sur un lit de sargasses jusqu'à l'épuisement. Je ne peux dire si nous étions heureux devant cette créature sans visage, cette horreur méconnaissable et pourtant si familière.
Elle voit de nouveau, elle parle et déparle en agitant les corps de ceux qui la regardent, en remplissant d'images fumantes les yeux et les pensées. Cendre, vole au-dessus de l'océan, vole dans le vent fougueux, vole dans la bouche pourpre de la tempête, cendre d'un fugitif manchot brûlé par les Français dans la colonie marquée du terrible nom Saint-Domingue, qui s'écrit par-dessus le nom Haïti. C'est ainsi que l'on dit propriété de sucre et de mort de la France. Cendre, vole et plante dans la boue de cette autre île, vivante, sans visage et sans nom, plante ton morceau de chair brûlée, ton charbon de révolte qui explose avec les graines sans patrie dans le bal des vers.
Boum.
Qui entend alors ce cri? Qui croit l'entendre? Le cri de cette vieille femme à la voix de loup-garou.
Macandale est vivant.
Macandale est vivant.
Macandale est vivant.
Le cœur.
Macandale est vivant. Macandale est vivant.
Elle voit de nouveau. Elle parle et déparle. L'histoire recommence depuis la mort, cette fois.
Archives fossiles. Dressez donc vos statues, posez vos plaques, coulez des hommes à cheval avec du métal d'Afrique. Posez ici et posez là, posez à Bruxelles et posez à Anvers. Distribuez des bustes du résistant Delgrès dans les municipalités en Guadeloupe. Plantez des jardins au nom de Solitude et plantez des statues d'esclaves rebelles ici et là. Plantez à Paris et n'oubliez pas de faire tomber sur la tête un esclavagiste à Bristol. Ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir de le noyer dans l'eau du port avec tous ses secrets. Ironie et diversion. Et ensuite, quand le calme est revenu, planter à la place une femme noire qui lève le poing, même un instant, comme pour faire semblant. Une femme noire fera le job avec le poing levé, c'est mieux, c'est cool.
Le cœur répète la strophe d'un poème de Derek Walcott, To See His History. Où sont vos monuments, vos batailles, vos martyrs? Où est votre mémoire tribale? Messieurs, dans ce tombeau gris, la mer les a enfermés. La mer est histoire.
Laisse-les faire, il faut bien qu'ils s'occupent. Mais n'oublie pas de casser à Cayenne le bras de Schlöcher qui pointe le passage du milieu pour montrer le futur. Casse l'ironie et casse la diversion. Fais tomber sur la dent le fier abolitionniste à la Martinique et ne dresse rien. Attends, ne plante rien. Attends et accueille l'explosion et la fumée qui sans cesse changent de forme et de direction. Les voilà nos monuments. La voix qui s'éloigne ou grandit depuis le plancher gris, bleu, bleu fossile de l'océan, dans la grotte, dans le paysage, bleu béton des tours. La tôle et le dos froissé des lotissements miteux, la silhouette qui découpe la nuit sur une mini-moto et la cicatrice à l'intérieur de la bouche qui rejoint, bleu-rouge, du mauvais regard qui défie la police et du regard qui se tord dans le chat-habit des usines. La main coupée et la main bleue de cobalt, bleu mine, bleu charbon, bleu-vert et bleu-rouge, bleu Talbot, bleu Algérie, bleu 83 qui est un autre bleu 61, bleu Seine, bleu 82, bleu Antilles. La nuque aimée et la lutte, la nuque cassée dans une brume de sueur. Le football infini où le temps n'existe plus et Marius Trésor les bras en croix. Jésus à Séville, allez les bleus. Les voilà nos monuments, morts vivants, vivants, bleus vivants.
Oh, à quelle époque et à quelle distance tu crois que cela commence? Tu crois que quelqu'un voit quelque chose qui n'a pas besoin d'être le début? Je te laisse le début, l'origine. Mec, je te laisse raconter ta life, meuf. Je te laisse ta petite propriété à toi, 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 toi. Je te laisse l'histoire et ses diversions. Tu as tous les moyens de production pour la raconter et la faire raconter ton histoire, encore et encore, pour remplir nos yeux et nos mains de ta grandeur et de tes pleurnicheries maintenant. Je vois d'autres mondes avec l'œil neuf et pourri de la mourante en décomposition qui est mon continent liquide. Et ça, tu ne peux l'imiter, car tu ne peux imiter la vie sous la mort, dans les mondes de la mort, la vie de mort qui est la vie, qui est le souffle depuis lequel tu m'entends te parler. Boum. Je ne baisse pas les yeux pour autant. Je ne baisse pas les bras coupés et le souffle, pareil. Sous le ciel capitaliste, incrusté de pierres précieuses, savoir, minerai, parle, trésor, parole, mots, arrachés au fond de la mine, de la gorge, aussitôt circulent dans les veines, circulent souples et fluides, se répètent, se répètent, se répètent et prennent de la valeur aux aisselles et aux cuisses, aux torses bruns. Prends. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons pas de mots, je te jure. Nous n'avons rien qui ne soit à nous et que nous puissions cacher. Nous n'avons que des mains sales où rien ne s'attarde. Prends.
Tous les mecs blancs peuvent être des femmes noires.
Queer maintenant. Et les femmes blanches aussi.
C'est facile.
Et c'est cool.
Il n'y a qu'à se servir. Il n'y a qu'à taper dans la matière disponible.
Prends. Dans l'or de la sueur, lèche les larmes à la surface des yeux. Audrey Lorde, ma chérie.
Octavia Butler, mon cœur.
Hortense Spiller.
Oh, Bell Hook, mon petit chaton. Et voilà, tu le veux, tu l'as.
Tout le monde le veut.
Tout le monde veut.
Être une femme noire, et si possible.
Queer et brillante.
Et luisante.
Et fluide.
Matière sans fin, amie et disponible.
Oh, Sadia. Dans la lumière mauve. Mais sans cet enfer et cet œil, sans le terrain vague immense qui hante la tête peinte au monochrome bleu-orange de la nuit, des bordes nationales. La tête perdue aux confins du monde dans une périphérie sans carte. À l'ombre d'une portière, « Hey, Rodney, tu t'es assoupi là ?» Sur le bord d'une voie rapide, c'est bizarre, mec. « Hey, à demain, as-tu posé ton beau profil de travers gros sur le bitume, pourquoi ?» Pour dire quoi, au juste ? Pourquoi faire ? Vas-y, reprends ton souffle, reprends, vas-y. Dans quel accident tu t'es mis, Théo ? Dans quoi t'es-tu glissé ? Qui presse, qui frappe à la porte de tes nerfs ? Personne ne veut être ce tas d'os criminel, je te dis, tout le monde veut, mais pas ça. Cesse de nous importuner, tu sais, tout le monde veut être importuné, mais pas ça. Réveille-toi de ton délire, réveille-toi, personne ne veut voir ta vie se répandre dans cette lumière stroboscopique et liquide, personne ne veut voir ta vie. Qui t'a peint l'œil de ce bleu scintillant, comment dire, bleu outre-mer, cobalt, roi, bleu porcelaine de Limoges, de Toulouse, quitte à déplacer la bouche dans le paysage français, qui a pressé tes muscles dangereux, qui a fracassé la porte dangereuse de ton souffle dangereux. Vas-y, reprends, reprends. Si tu le veux, tu l'as.
Le cœur chante une chanson populaire, anonyme et sans date.
Nous avons
d'explosion envahit les bouches du cœur. Une histoire bleu nuit, paysage de son, telle Grèce se donne la mort avec ses 300 compagnons. L'habitation d'Anglemont explose et retombe bruyamment au pied de la soufrière. Claquement de bouche, sifflement entre les dents qui est aussi l'histoire de la banlieue, qui est aussi l'histoire de la Seine et donc l'histoire de l'Algérie. Et donc l'histoire du fer, des aiguillages et de l'aube. Et donc l'histoire des terrains vagues. Et donc l'histoire des visages sales, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie. Mais nous ne le saurons qu'à la fin, tout ce bruit, ces fumées et ce fracas. C'est une histoire de ce qui doit exploser pour ouvrir un espace et respirer. Le cœur jette des grenades pourries sur la Seine. Tout ce bruit sert d'entracte, puis cela continue de plus belle. Je ne suis pas ta petite archive sucrée. Je ne suis pas ta belle citation, ton pretty native informant, chérie. Vas-y. Je ne suis pas ton petit papier peint, bleu tirailleur, je ne suis pas ta matière indestructible et aimée. Je ne suis pas ton danseur fou, bleu néon, bleu liquide. Je sors de cela. Je m'absente de cela. Sur ma langue, il y a des paysages de la nuit, orange et bleu. Et il y a le boucan d'un océan coléreux, d'une fête. Mon histoire est cachée.
Est cachée.
Derrière le bruit et derrière les images dans le décor. Mon histoire est cachée, cachée. Et mon souffle est
cachée.
Cachée.
Chronique de film. Ce n'est pas l'histoire d'un cow-boy noir si libre qu'il tue tous ceux qui se mettent sur son chemin, tous ceux qui veulent l'empêcher d'avoir et de jouir. Ce que je veux, c'est jouir. Ce n'est pas la vie éblouissante d'un cow-boy noir armé qui réalise le fantasme qu'on a mis en lui de devenir un homme de cette façon-là, de devenir un homme par la violence et la possession, et d'ainsi quitter cette matière rampante à l'œil sombre qui s'écorche les mains à ramasser du coton, sans pouvoir comme lui jouir, sans se révolter comme lui, non pas pour être libre, mais pour jouir de ce droit à la violence et de ce droit à la mort, qui est dans la Constitution, droit de détruire tous les obstacles et de posséder, droit de briser toutes les résistances, droit de réduire tous les ennemis en cette matière de mort. Histoire du héros déchaîné et pas de la masse enchaînée, tas grouillant et peureux, où se dépose la tête toujours trop chaude du maître. Reste, décor, déchet. Il y a ce qui ne sert à rien à l'histoire et il y a le héros qui est spectacle, qui est meurtre et qui donc est histoire. Le héros est la mère, car la mère est histoire et nous sommes enfermés dans ce tombeau gris-bleu. Ce qui survit à cette histoire, nous l'appelons hallucination. L'as-tu vu ? L'as-tu entendu ? Nous l'appelons monument. Nous l'appelons archive délirante. L'as-tu vu ? L'as-tu entendu ?
À qui est cette rue ?
C'est notre rue.
À qui est cette rue ?
C'est notre rue.
À qui est cette rue ?
C'est notre rue.
Cette rue ?
Notre rue.
À qui est cette plaie ?
C'est notre plaie.
À qui est ce souffle ?
C'est notre souffle.
Ce souffle ?
Notre souffle.
Survivre et respirer. Voilà la rébellion et l'histoire collective de la matière nègre. Et dans sa vie, de sa vie dans le décor, des films. Et le paysage des films, où le héros tue pour jouir, comme le maître lui dit de jouir, en mieux peut-être, en plus implacable encore, pour devenir cet homme-là, entièrement libre de donner la mort, de tirer des balles qui transpercent la résistance à ce qu'il veut, à ce qu'il croit vouloir, car il est libre de tuer et il est libre de jouir.
Il n'y a pas d'autre histoire, sauf peut-être là, dans les restes et le décor, dans les déchets et les décombres fumants de la scène de crime, qui est scène de jouissance sans fin. Il y a un œil survivant. Il y a le début d'un lieu.
Boum. L'air s'est teinté de bleu très pâle. Les traînées des bombes lacrymogènes décrivent des arcs de cercles qui rebondissent sur le sol. Boum. Oublie donc l'origine, le début, et l'idée du début. Et cherche plutôt le moment critique, la scène primitive qui est ensuite se répète. Dans les échos, de moins en moins puissant, de moins en moins visible, plane toujours pourtant le spectre de la scène primitive, qui est parfaite, qui est terriblement parfaite. Terrible et parfaite. La plantation.
Oh. Oh.
C'est là que l'on va commencer. Comme Malcolm Ferdinand. Mais pour d'autres raisons.
Journal intime. Un jour, j'ai participé à un séminaire fasciste. C'était la première fois. Je ne le savais pas au début, je n'étais pas sûr en lisant l'invitation de comprendre exactement où ceux et celles qui m'invitaient voulaient en venir, mais bon, à la fin, c'était bien un séminaire sur la possibilité du racisme et la possibilité du fascisme en Belgique, en art. Malgré les airs un peu gênés, c'est bien de cela qu'il s'agissait. Fascisme, Europe blanche, art contemporain, futur et mélancolie. J'exposais un diagramme qui représentait l'économie visuelle de la plantation. Une histoire de l'œil de ceux et celles qui vivent dedans, sous l'empire d'un regard. Une histoire du visible, une histoire de l'invisible, de ce qui est jeté dans l'ombre et de ce qui survit dans l'ombre, de ceux qui sont la lumière et de ceux et celles qui les imitent. Dans un autre séminaire, ailleurs, j'ai montré de nouveau ce diagramme. Et à la fin du panel auquel je participais, une femme blanche s'est levée. Elle n'est pas venue vers moi, elle a pris dans ses bras l'une des intervenantes sur la scène aux yeux de tous, dans l'empire de ce regard, une universitaire noire, dans ses bras. Elle l'a serrée très fort contre sa poitrine comme on serre une amie, un parent, maman. Elle s'est agrippée à elle de toutes ses forces pour ne pas sombrer. Elle avait peut-être peur de sombrer. Et ce qu'elle a trouvé, c'est une femme noire, la coque d'un bateau dans l'eau glacée, un morceau de coque ou un rocher. Et à peine cette pierre noire avait-elle fini de parler, au même panel où je montrais le diagramme de la plantation, les violences affectives et invisibles de l'habitation, que cette femme blanche souriante est venue sur la scène avec toute sa détresse pour la tenir contre elle, comme pour lui dire « c'est bien, comme pour lui dire « c'est bien, mon chaton, viens me donner un peu de ta chaleur juste après la projection du diagramme qui est le plan d'une zone d'extraction affective, la plantation » où la violence dans les champs et au pilori éblouit celui ou celle qui ne regarde pas bien de quoi cette violence est la diversion, ce qu'elle nous empêche de voir de la chaleur et de l'ombre de l'habitation. Il y a une chose que Saadia Hartman veut voir et que peut-être Malcolm X rate, le coût payé par celles et ceux qui côtoient les maîtres et leur doivent attention, service sexuel et spectacle, l'économie de cette attention, de ce soin, de cette disponibilité. Une dette. Et juste après ce diagramme, donc, il y a la scène de la femme qui s'enroule sur de la chair noire comme si elle serrait sa nounou chérie quelque part dans une histoire de l'ombre, dans un lieu sans témoin, mais qui devient un spectacle maintenant. Et juste après le diagramme encore, mais ailleurs cette fois-ci, de retour dans le séminaire fasciste, le directeur blanc d'un musée me serre la main et me dit « Nous sommes les marrons ». C'est nous les marrons. Tout cela est juste, tout cela est terriblement juste. La plantation et tout ça, merci, merci, c'est incroyablement juste. La scène lumineuse qui chasse l'écologie de l'ombre, la main délicate qui sort la matière de la cale pour se divertir et se sauver. C'est cela le monde de l'art que nous chérissons, sauf que c'est nous les marrons. Mais cette fois-ci, dans le séminaire fasciste, il ne me prend pas dans ses bras. Ce n'est pas l'endroit et ce n'est pas le moment. Mais surtout, il sait que je ne vais pas le sauver. Je ne suis pas une femme noire qui sauve les directeurs blancs des musées belges qui sont des marrons. Ça, je ne le peux pas. Je ne suis pas ce rocher-là. Je ne suis pas ce morceau de coque d'un immense bateau de croisière, d'une ville flottante, d'une ville européenne qui se fracasse sur de la glace. C'est au-delà de mes forces. Et alors je le regarde lâcher ma main et s'enfoncer tout au fond de l'eau sombre de ce séminaire fasciste. Il disparaît.
Les cœurs, dans un bruit d'océan à la Turner, plouf! Des regards dans les périphéries de l'Empire, là où tout est plus intense et nu, une scène primitive, intense et nu, terriblement parfaite, et c'est là que l'on voit clairement toutes les collections. Tous les motifs délicats de la violence, exposés sans peur et sans honte. Mais ce n'est pas la seule histoire du spectacle, insoutenable et de ses diversions, éblouissante. Ce n'est pas la seule histoire de la fusillade qui ravit l'œil du cow-boy noir, qui est l'œil d'un autre avec son corps à lui. Ce n'est pas non plus la seule scène fantôme de ce moment de jouissance. Un lynchage, du bois brûlé, charbon humain pendu à l'arbre, fruit étrange, mûr à crever.
Oh, ce n'est pas la seule histoire d'un policier qui s'égare et s'endort sur un tas, un minerai sombre, une montagne luisante de pétrole dur et résistante, jusqu'à ce qu'elle s'effondre sur elle-même et devienne une chose sans vie, par accident, dans l'exercice de ses fonctions de mort et de spectacle. Ce n'est pas que et ce n'est pas seulement.
C'est aussi l'histoire de ce qui se passe dans l'ombre familière et chaude du foyer. La cuisine, la chambre, la réserve, le sanctuaire, ma chérie, ma douce. Tout le monde veut être une femme noire, mais...
Oh.
Dans la pénombre de l'habitation où les mains sont disponibles et coiffent à l'infini des cheveux blonds, où les lèvres sont disponibles et sans mots, où les fesses, les seins, le sexe, les jambes sont disponibles, et aussi l'œil transpercé où se déversent les drames, l'immense vulnérabilité des maîtres et l'impossible réconfort qui n'a jamais assez de mains. Ma chérie, c'est là notre maison, notre foyer. C'est ainsi qu'est notre monde, et il n'y a pas d'autre monde. Il faut en prendre soin et le comprendre et l'accepter dans toute sa lumière et dans tous ses ténèbres.
Ténèbres bleues très foncées, comment dire, noires avec des reflets bleutés comme les plumes autour de l'œil d'un oiseau.
Viens, tu vas me faire une promesse. Ne t'éloigne plus jamais, jamais. Reste ici que je te sente. Donne-moi tes mains fraîches pour essuyer ma fièvre. Tu seras ma sœur jumelle. Et nous fonderons un ciel de sororité dans l'après-midi qui s'en va, derrière les mornes. Pourquoi ne m'aimes-tu pas d'un amour sincère comme moi je t'aime? Pourquoi ce sourire idiot, ces bras sans vie et ce hochement de tête et cette lenteur idiote avec laquelle tu traînes tes pieds idiots quand je t'appelle? Pourquoi suis-je si fatiguée et lasse de ce que tu me refuses? Ne veux-tu donc pas faire ce que je te demande?
Ne veux-tu donc pas être mon œuvre collective, mon installation parlante, ma collaboration, et répéter la même chose en modulant le ton et la hauteur de ta voix sur un fond bleu outre-mer avec des pierres précieuses dans la bouche? Un ananas en équilibre sur la tête. Souris mon sucre, mon trésor, c'est très beau, ne bouge plus. Une lumière mauve et des projections de coquillages étouffant paysage de ces îles maudites où nous avons échoué, toi et moi, ma sœur. Va dormir sur ta paillasse miteuse dans un rêve d'Europe, mais d'abord consent à cette vie brève, vide, éphémère, consent. À vivre dans mon regard ami et à me regarder jouir. Tout est vieux maintenant, les palmiers sont couverts de la cendre d'une explosion. Là-haut, au pied de la soufrière, les rebelles ont fait sauter l'habitation d'Anglemont. C'est la fin. Beau.
Mais nous sommes une famille. Ne sommes-nous pas une famille ? Une grande famille aimante et juste. Il n'y a rien à voir dehors que les cendres qui volent sur ce paradis grisâtre et laid. Il n'y a pas de raison que nous quittions l'habitation. Il n'y a pas de raison, non, que nous quittions la scène. Je peux te le dire, nous ne la quitterons pas, car nous sommes l'arche. Qu'irais-tu faire dehors ? Où hurlent maintenant les singes brûlés vifs dans une forêt d'arbres déchouqués. Il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu que des hallucinations. Il n'y a pas d'autre monde, car nous sommes l'arche.
Et nous sommes les marrons.
Une note de lecture faite de dons, d'obligations, de cooptations, de menus privilèges, de préférences, de désirs concurrentiels. Ces interactions sont le moyen de rendre supportable la suprématie raciale comme de la générer. Elles indiquent, à mon sens, la dimension de la violence symbolique quand celle-ci se substitue à la brutalité physique comme lieu où se fabrique l'assujettissement de manière sourde dans la routinisation de la domination. L'esclavage, du souvenir à la mémoire, contribution à une anthropologie de la Caraïbe, Christine Chivalon, édition Cartala, 2012.
Et c'est cela qu'il faut apprendre. Voir avec l'œil neuf, vert et brun, par-delà les diversions, les tourbillons de cendres, et inventer des gestes pour ne pas devenir les dernières prises de ce qui disparaît et doit disparaître. Pas loin, ce n'est pas la peine, par ici, par là, pas loin, il n'y a pas d'autre monde, il n'y a que ce monde, quitte l'habitation un instant, dehors ce n'est pas un autre monde, mais apprends à respirer, à goûter à l'air et à écouter ce qui murmure, un monument de chuchotements et de messes basses. C'est là que nos voix s'en mêlent avec d'autres bruits, craquements et cris. Nous devons apprendre à respirer à l'intérieur de tout cela, en dehors de cet œil familier qui appelle, mais qui t'appelle? Voilà une langue pour un lieu qui n'est pas encore là, car il n'y a pas d'autre monde, et pourtant nous respirons juste à côté de ce monde tel qu'il est. Notre peau se détache, tiens-toi tranquille, souris à tes ennemis, montre ta dentition et glisse-toi doucement vers le dehors, remplir de peur ton sang, remplir tes poumons de feu. C'est le lieu qui vient et nous le parlons bruyamment, maintenant nous le déparlons. C'est le lieu peu sûr, fragile, qui vient. Dans la décomposition, quelque chose monte et se dresse, quelque chose s'enfuit aussi, laisse fuir qui a besoin de fuir, elle reviendra quand elle aura trouvé son moment et sa musique, quand il aura trouvé sa danse. Rien ne consent en ce lieu, oublie l'origine et le désir pour la maison, le palais pour la fausse chaleur, et ce qui t'épuise et te plie, ce que je veux c'est jouir. Arrache ton désir de ces vieilles histoires, tiens-toi tranquille et souris à tes ennemis. Défais la colère qui est un désir de puissance, désir de roi, de reine, désir d'enfant, roi et reine, et garde l'autre colère qui est monument sans qu'un. Et ne te mets pas non plus immédiatement à tresser, comme tu as toujours dû tresser sans fin avant, parce que tu avais peur de ne pas être. Tout le monde veut être, mais ne donne plus tes mains, oublie que l'on t'appelle, qui t'appelle. Reprends ton désir et tes yeux et laisse venir ce qui monte. Une forme que personne ne décide se dresse à présent, sans maître, par la puissance grouillante des vers dans la matière bleu-noire du vivant et du mort. C'est notre langue. Le début de notre langue qui commence partout et qui commence toujours quelque part en particulier. Dans l'ombre de ce qui n'était pas vu, de ce qui n'était pas dit, nos monuments qui ne cessent de grandir maintenant en s'effondrant n'ont pas de visage ni de cheval. sous le ciel gris orangé où volent les cendres de ceux et celles qui voulaient vivre et respirer. Il y a un lieu, les débuts d'une fête, sans spectacle, dans le craquement de nos os, dans le gargouillis de nos ventres. Il y a un lieu.
Nous venons d'écouter, sentir, regarder, écouter, sentir, écouter, sentir Bleu Pays avec Olivier Marbeuf-Haïd et Tinto Collins. Et voilà, un silence qui nous envahit, mais aussi donne à sentir ce que nous avons parlé tout à l'heure. Avec Lotte, Émilie et Olivier. Mais cette interprétation, donc, qui était une première de ce poème, a été donc imaginée par une collaboration entre vous deux. Et où se sont mêlées, comme on a dit avant, plusieurs voix, plusieurs vitesses aussi de ces voix. Parfois voix en chœur, parfois voix singulière, voix dans différentes temporalités aussi, dans le passé, dans le présent, dans un potentiel futur proche, et tout ça mêlé aussi avec la musique, avec le son. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu de ce rythme qui est déjà, comme on a parlé avant, le poème est assez graphique, donc assez visuel déjà. Est-ce que c'était ça, un premier jet, par exemple, pour la structure, ou combien était aussi une improvisation là où on a vu?
Bon, Olivier Marbeuf veut absolument que je réponde. Alors, je vais essayer de le faire. C'est une invitation que je n'attendais pas, mais en fait, elle est arrivée au bon moment. Il y avait un alignement où, en parcourant le texte, je me suis laissée porter à travers ces différentes strates d'écriture, de réflexion, d'annotation, de collection. Et c'est vraiment une façon qui s'est inscrite à la fois dans ma personnalité aussi. Donc il y a eu comme quelque chose d'assez magnétique C'est assez bien fait, je veux dire, il y a plein de versions qui sont lisibles et qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux, entre autres, en tout cas, moi, c'est là que je les vois. Par capsule, c'est assez chouette, du coup, on peut en avoir une par jour, si on n'est pas courageux, parce que c'est vrai qu'il est très physique à passer comme ça pendant une demi-heure, mais... C'est pour parler du côté graphique et du coup du rythme qui est implicite à la façon dont on pourrait le recevoir. Donc j'ai été guidée finalement par... c'est un dessin, c'est un plan, c'est quelque chose qui se retourne, qui détourne, qui fraye un chemin. Donc à chaque lecture, je reçois comme ça des nouvelles directions au niveau de la voix notamment. Parce que c'est aussi là où il est très intéressant et là où j'ai hâte de le voir passer dans d'autres corps qui sont presque des élus, j'ai envie de dire, sur un ton, je sais pas comment le dire. Parce que vraiment, il y a quelque chose d'assez particulier dans le design de ce texte. C'est-à-dire que, comme le dit très justement l'auteur, en fait, tout le monde ne peut pas forcément le dire et le faire passer. Je veux dire, il comporte une éthique qui fait que c'est un code. On parle en code, en fait, là. Donc, c'est je sais pas, je suis un peu en roue libre. Je sais pas si ça répond à la question, mais voilà.
même de manière très belle. En fait, pour moi, ce soir, c'était la première fois de l'entendre. Alors que c'est un texte qui, évidemment, en le traduisant, j'ai beaucoup lu, et je pense lu aussi dans des détails. Et en fait, je n'arrêtais pas, en le lisant, à sentir que c'est un texte qui appelle à être mis en voix. Et qu'en même temps, et ça, c'est un peu la situation dans laquelle on est maintenant, ce sont des voix qui appellent tout le temps des corps. Et alors, du coup, la question que ces voix sont, comme tu le dis, hein, sont connectés à une histoire, viennent nécessairement pas de nulle part, mais sont justement très, très articulés entre ceux qui mettent en place. Et du coup, ouais, j'étais dans cette attente de vous attendre, d'entendre ce soir. Et évidemment, ça produit beaucoup plus de choses que tu peux t'imaginer. Mais ça m'intéressait aussi de t'entendre, toi, sur ce que ça faisait que d'arriver dans ce texte, de le porter par ta voix et d'en faire en même temps quelque chose qui fait le texte se transforme par le fait que tu l'interprètes.
En fait, ça m'a rassurée dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a un lieu, quoi. Enfin, c'est ça, en fait, qui s'est produit, tout simplement. Enfin, j'étais pas folle jusqu'ici. Tout était étrange, mais c'était pas pour rien. Donc il y a un lieu. C'est ça, en fait, que ça m'a fait d'arriver dans ce texte. J'étais dans le lieu, quoi. Enfin, voilà. C'est particulier. Je sais pas encore comment le décrire. Je veux dire que j'ai pas de recul sur mon interprétation. Enfin, sur ce que ça m'a fait que d'interpréter ce texte. C'est pas moi qui peux le dire, parce que l'interprétation, c'est pour moi revenir au phénomène de l'écriture, essayer de revivre le contexte d'écriture. Et je pense, hein, de pourquoi on écrit ça, en fait, revenir à ce moment T, très mystérieux. Et je crois qu'on se découvre aussi, c'est une grande rencontre aussi avec Olivier, en fait. Donc c'est anticipé, je ne voudrais pas... parler tout de suite de ce que ça m'a fait. Je pense qu'il faut d'abord le donner, le partager, et ensuite on pourra éventuellement savoir ce que ça nous fait vraiment. Parce que là, pour l'instant, c'est...
Oui, je voulais juste ajouter quelque chose qui est des hasards et pas des hasards, parce que voilà, en fait, je pense qu'avec quand on fait ce type de projet-là, on se doute que de toute façon les choses qui vont pouvoir se faire vont pas se faire par hasard, et pourtant vont se faire un peu magiquement. Donc c'est une espèce de paradoxe. Et dans notre répétition la semaine dernière, en fait, Eden est venu aussi avec une boucle de sample en basse, Moi, j'écris tout ce que j'écris en écoutant de la musique, en fait. Tous mes textes sont écrits avec des loops et des loops extrêmement simples, en fait. Voilà, j'ai cette espèce de truc dans l'oreille qui fait que Bleu Pays a été écrit avec la même boucle de basse que j'ai écoutée pendant des heures, un truc qui te rend dingue. Et du coup, on n'a pas parlé du tout, en fait, c'est pas du tout un truc qu'on a évoqué, mais moi qui fais partie de mes techniques d'écriture, de me mettre dans une espèce de mood, comme ça, et d'un rythme, d'une quelque chose qui sonne. Et du coup, en répétition, elle est venue avec cette chose-là, qui en plus en termes de tonalité extrêmement proche, d'ailleurs on l'entend avec ma voix, extrêmement proche de choses dont je suis très familière dans mon travail. Et donc, il y a d'un coup une familiarité qui est revenue. Moi, j'étais effectivement, quand on vient avec un texte, on vient déjà avec beaucoup de matériaux. Donc, moi, je suis venu avec rien d'autre que le texte. Je n'ai pas dit, il faudrait qu'il y ait ça, 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 parce que je trouvais que déjà venir avec le texte, c'était de venir avec beaucoup d'arguments. Et elle a réintroduit, en fait, voilà, une sonorité et une présence. Et effectivement, aussi avec ce statement de nous avons un devoir de mélancolie, qui est donc peut-être aussi une forme de ralliement en faisant quelque chose qui a pris du coup une ampleur dans le travail et qui devient vraiment une espèce de symbole aussi du texte. Donc ça, ces amplifications là et ces entrées là d'un coup, moi ça me ravit parce qu'à la fois ça, c'est un familier étranger quoi, c'est les gens, ils font des trucs que tu pourrais faire mais que t'as pas fait, et que même donc il y a une espèce de corps collectif qui se met en marche avec un travail qui débute. On a très peu travaillé, on se rencontre aussi artistiquement. Mais du coup, je crois que faire un lieu, c'est de trouver, et l'auteur en parlait au début avec Natacha aussi, c'est retrouver des familiarités, retrouver la manière dont le lieu n'est pas un endroit, mais plutôt une manière d'être ensemble. Et donc, travailler le texte a produit ça, et ça, c'est vraiment, c'est un peu cadeau. Et à la fois, je ne peux pas dire que je suis surpris, parce que le texte attend ça, en fait. C'est pas moi qui attend ça, c'est le texte, en fait. Et il y a aussi cette idée-là, pour moi, de travailler avec quelqu'un, ça me détache en fait de l'idée d'être l'auteur du texte. En fait, le texte, c'est un espèce d'organisme dont moi, dès que quelqu'un y touche aussi, je me resitue par rapport à cet organisme-là, pas du tout dans une logique d'auteur, et je n'ai pas du tout de préméditation de ce que ça doit être, en fait. Du coup, tu te laisses porter par une possibilité qui te rend étranger de l'objet, qui est ce mouvement, pour moi, vers le vivant et à distance, et de la mort et de la propriété dont j'ai parlé tout à l'heure.
Merci à toutes et tous, et on va clore sur ces mots d'Olivier. Merci encore pour cette belle lecture, et merci à nos interprètes également pour leur accompagnement ce soir.